Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h, temps universel. L'antenne est à vous dans 30 minutes. Nous ouvrirons le débat en Côte d'Ivoire. Le PPACI et le PDCI, deux des principaux partis d'opposition, ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre leur participation à la commission électorale indépendante. Ils estiment justement que l'organe chargé d'organiser la présidentielle prévue le 25 octobre prochain n'est pas indépendante. La CEI manquerait de transparence et serait inféodée au pouvoir selon ces deux partis. Alors, qu'en pensez-vous? Les reproches du PDCI et du PPACI envers la CEI vous semblent-ils pertinents? Vos réactions nous intéressent, on vous attend au standard 33 9 693 693 70. Je lirai également quelques-unes des très nombreuses réactions que vous nous avez transmises via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais tout de suite, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions. On passe notamment au téléphone avec Ali. Bonjour Ali.
Bonjour Dosso, comment vous allez?
Et vous-même, comment ça va? Vous êtes à Cotonou au Bénin?
Oui.
On salue au passage les auditeurs béninois qui nous écoutent sur le 90 FM. Alors Ali, vous souhaitiez en savoir davantage au sujet du droit du sol sur l'île de Mayotte.
Oui, après plusieurs mois de débat, la loi pour durcir le droit du sol à Mayotte a été votée. Qu'est-ce qui dérange autant le gouvernement avec le droit du sol à Mayotte?
Alors,
Se dirige-t-on vers une abrogation totale de ce droit sur l'île?
Alors voilà pour vos deux questions, Ali. Pour vous répondre, nous sommes en studio avec Victorien Villaume, journaliste au service politique de Radio France Internationale. Bonjour Victorien.
Bonjour Namoury, bonjour à tous.
Alors pourquoi les parlementaires français ont restreint le droit du sol à Mayotte?
Alors déjà, je voudrais préciser qu'il n'y a pas que le gouvernement qui est dérangé par le droit du sol à Mayotte, puisque certes le gouvernement soutient le texte, mais en fait il a été adopté parce qu'une majorité de députés l'a soutenu à l'Assemblée nationale, toute l'extrême droite, toute la droite, et puis il y a aussi des députés du bloc central, ce qu'on appelle le bloc central, c'est le Modem, le parti également Horizon d'Édouard Philippe, et puis Ensemble pour la République, le parti d'Emmanuel Macron. Maintenant que ça s'est dit, le gouvernement français en fait part du constat suivant, il y a une forte pression migratoire à Mayotte, on en parle régulièrement sur RFI, des personnes qui viennent principalement des Comores et qui se rendent illégalement dans le département français, et sur place donc il y a de nombreux habitants maorais qui estiment que cela pose des problèmes d'insécurité, cela pose des problèmes aussi en concernant l'habitat insalubre. Il y a beaucoup d'habitats insalubres dans le département français. Donc si le gouvernement a voulu restreindre le droit du sol, Namoury, c'est parce qu'il pense qu'il rendre plus difficile l'accès à la nationalité française, eh bien ça rendra moins attractif le territoire français.
Néanmoins, Victorien, ce durcissement est jugé inefficace par la gauche.
Oui, pour la gauche et pas que. D'ailleurs, il y a aussi des professeurs de droit public, par exemple. Et en tout cas, si des étrangers viennent à Mayotte, pour la gauche, c'est pas particulièrement pour devenir citoyen français, pour avoir des papiers français, mais surtout parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure et donc ils pensent que ce texte ne sert à rien. Et puis le deuxième argument, Namoury, c'est qu'un premier texte de loi avait été déjà adopté, c'était en 2018, donc il y a à peu près 7 ans et on ne peut pas dire que l'immigration irrégulière a diminué depuis.
Alors dans la deuxième question de notre auditeur Ali à Cotonou au Bénin, il souhaitait savoir si l'on se dirigeait vers une abrogation totale de ce droit sur l'île.
Ce qui est sûr, c'est que c'est une mesure qui est réclamée par une majorité de la population sur place et aussi par les élus locaux comme Estelle Youssoufa. Et l'an dernier, on avait failli se diriger dans cette direction. Vous vous souvenez peut-être, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, qui est actuellement garde des Sceaux, pendant un déplacement sur place, il avait dit « la fin du droit du sol à Mayotte va être inscrite dans une révision constitutionnelle ». Il avait aussi dit que le président Emmanuel Macron y était favorable. Sauf que ça, c'était à l'époque du gouvernement de Gabriel Attal. Depuis, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Et les projets du gouvernement ont été interrompus.
Alors depuis Victorien, depuis Gérald Darmanin a redit qu'il souhaitait que ce projet soit mené à bien, mais Victorien, abroger le droit du sol, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts.
Non, c'est un projet qui implique une révision, on l'a dit, de la Constitution française. C'est une procédure longue, complexe, parce que la Constitution française, c'est un texte solennel. Il y a une procédure qui est très encadrée. Il faut par exemple que le projet de loi constitutionnelle soit voté par les deux chambres, donc Assemblée et Sénat, dans des termes identiques. Ça peut aussi passer par un référendum. Et en plus de ça, Namouri, le gouvernement actuel est divisé en interne. J'ai parlé de Gérald Darmanin, qui était pour l'abrogation totale. Il y a aussi Manuel Valls. Mais au contraire, Elisabeth Borne, par exemple, est contre ce projet. Et puis, chez les députés, c'est un peu le même constat. Les députés de l'aile gauche du camp macroniste sont pas vraiment à l'aise avec l'idée d'abroger totalement le droit du sol. Bref, du coup, cette année, le gouvernement de François Bayrou s'est entre guillemets contenté d'un tour de vis sur le droit du sol à Mayotte.
Ali, avons-nous répondu à vos interrogations ?
Très bien, très bien.
Merci Ali, on vous souhaite une excellente journée à Cotonou au Bénin. Un grand merci également à Victorien Villaume, journaliste au service politique de RFI. Merci Victorien. Nous accueillons désormais Hervé de Kinshasa en République démocratique du Congo. Hervé, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Amoury.
Alors vous souhaitez revenir sur l'attaque de Soumy en Ukraine, c'était dimanche dernier.
Oui. Des frappes russes sur la ville de Soumy en Ukraine ont causé la mort d'une trentaine de personnes. Pourquoi la région de Soumy est-elle particulièrement visée par la Russie ?
Alors, pour vous répondre, Hervé, nous sommes en ligne avec Cyril Brett, géopoliticien, maître de conférence à Sciences Po Paris, également chercheur associé spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale à l'Institut Jacques Delors. Cyril Brett, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, notre auditeur voulait savoir pourquoi la région de Soumy est-elle si particulièrement visée par les frappes russes.
Bonjour Amaury, bonjour Hervé, bonjour à la RDC, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais répondre très rapidement. Les frappes sur Soumy n'ont aucun intérêt militaire ou stratégique. C'est un intérêt politique et c'est un intérêt symbolique très très grand. Soumy, c'est vraiment très au nord de la ligne de front. C'est très loin du front principal qui a été ouvert il y a maintenant plus de 10 ans dans la région du Donbass, du bassin du Don. Et Soumy, même si c'est un carrefour ferroviaire, n'est pas un objectif militaire très important qui peut changer le cours de la guerre. Du côté russe, le but, c'est de consolider les occupations illégales de territoires dans l'est du pays. Soumy se trouve au nord du pays. Et du côté ukrainien, le but est évidemment de résister sur le front du Donbass, ce qui fait qu'en fait, les autorités ukrainiennes ont été prises de court par l'attaque sur Soumy. Non, l'intérêt est surtout politique, l'intérêt est médiatique, il est symbolique, avec des frappes sur des populations civiles, ce qui est constitutif d'un crime de guerre. Les autorités russes montrent que le début des pourparlers sous égide américaine n'ont pas affaibli la volonté d'invasion russe et s'est montré donc une fermeté, voire une cruauté très importante qui prévient les autorités ukrainiennes. Les négociations vont être très difficiles.
Alors Ali, à Kinshasa, vous aviez une deuxième question pour Cyril Brett.
Est-ce que ces pourparlers ne peuvent-elles pas mettre en péril les pourparlers pour un cessez-le-feu?
Alors, vous vouliez dire que ces frappes, vous voulez savoir si ces frappes pouvaient mettre en péril les pourparlers pour un cessez-le-feu. Cyril Brett.
Oui, Hervé pose la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire que vient faire un bombardement avec 30 victimes civiles au moment où Donald Trump a promis qu'il ferait la paix très rapidement en Ukraine. Mais en fait, les pourparlers de paix et les opérations militaires meurtrières ne sont pas exclusives l'un de l'autre. C'est pas ou bien les négociations ou bien la guerre. Les deux ennemis vont continuer les opérations militaires, vont continuer la guerre pour pouvoir justement avoir une position plus forte à la table des négociations. Les deux vont continuer à combattre au moment même où ils discutent. Et c'est tout le paradoxe de cette phase. On parle de paix, on fait la guerre, et ça va continuer malheureusement pendant des mois.
Cyril Brett, de nombreuses chancelleries occidentales ont dénoncé cette frappe sur Soumy dimanche dernier. Du côté américain, est-ce que Donald Trump pourrait infléchir sa position vis-à-vis de Vladimir Poutine après ces frappes ?
Pas encore. L'indifférence de l'administration Trump 2 à l'égard du droit international est très explicite, ça ne le concerne pas. Et ce qui pourrait changer, ce qui pourrait créer, ce qui pourrait énerver en fait tout simplement le président américain, c'est que le président russe ne lui donne aucune victoire médiatique, aucun succès médiatique avant l'été, sous la forme par exemple d'un accord de cessez-le-feu général ou sous la forme d'une cessation d'un certain type d'hostilité. Les Américains jouent leur crédibilité et cette administration Trump 2 a promis d'avancer très rapidement dans ces pourparlers de cessez-le-feu. Si les Russes continuent les manœuvres dilatoires en énonçant des conditions pour la mise en œuvre des accords qui sont discutés, alors là, le vent pourrait changer à Washington et nous savons bien qu'il ne faut jamais énerver Monsieur Trump. Il vaut mieux lui dire oui en apparence et ensuite négocier avec lui, même de façon très difficile.
Affaire à suivre donc. Hervé, a-t-on convenablement répondu à vos interrogations ?
Oui, très bien, merci.
Merci Hervé, merci également à Cyril Brett pour ses explications au sujet de la guerre en Ukraine. Nous accueillons à présent un nouvel auditeur, Kassoum de Sikasso au Mali. Bonjour Kassoum, merci d'être avec nous.
Bonjour Laure, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Alors vous voulez en savoir davantage au sujet du nouveau point de friction, du nouveau point de discorde entre l'Algérie et la France, on vous écoute.
Oui, bien sûr. En France, 3 Algériens ont été mis en examen dans l'affaire Amir Dezed. Alors, que les reproche-t-on exactement? Est-ce que l'expulsion des 12 agents de l'ambassade de France en Algérie a un lien avec cette affaire?
Alors, Kassoum, pour vous répondre, nous avons fait appel à Kader Abderrahim. Il est maître de conférence à Sciences Po Paris, également auteur de la géopolitique de l'Algérie aux éditions Blibli Monde. Kader Abderrahim, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, pour revenir rapidement sur cette affaire, il y a quelques jours, la France et l'Algérie ont annoncé un rapprochement, un réchauffement de leurs relations après une crise diplomatique qui avait duré 8 mois. Mais voilà que les choses repartent. Kader Abderrahim, est-ce que l'expulsion de ces 12 agents de l'ambassade de France en Algérie est-elle liée à cette affaire et quelles pourraient être les conséquences à l'avenir ?
Pour répondre à votre première question, oui, elle est directement liée au fait que la justice française a placé en détention provisoire un agent consulaire qui travaillait au consulat d'Algérie à Créteil parce qu'il est soupçonné à ce stade de l'enquête d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration d'un influenceur algérien opposant réfugié en France. Donc, les deux sujets sont totalement liés. Pour répondre à votre seconde question sur les conséquences, c'est que l'on voit depuis maintenant plusieurs mois une dégradation et à chaque fois on descend une marche et lorsque parfois, il y a des accalmies, il y a des tentatives, comme ça a été le cas il y a une petite semaine, des tentatives pour tenter de renouer le dialogue, mais ce sont des tentatives qui sont souvent vouées à l'échec et on voit que l'accalmie est c'est un répit de très courte durée.
Il nous faudra un jour ou l'autre revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant. C'est ce qu'estime le chef de la diplomatie française ce matin, Jean-Noël Barrot. Kassoum, vous aviez une autre question pour Kader Abderrahim à ce sujet.
Ah oui, la dernière question, c'est maintenant, alors que Paris et Alger semblent se réconcilier, est-ce que cette situation peut relancer les hostilités entre ces deux pays ?
Kader Abderrahim.
Ben, les hostilités sont déjà relancées. On voit bien que l'expulsion des 12 agents qui travaillent à l'ambassade de France à Alger a appelé de la part de la France l'application du principe de réciprocité. Et la France a annoncé l'expulsion de 12 diplomates français, algériens, qui sont dans le réseau consulaire ou bien à l'ambassade. Donc oui, la situation se dégrade encore un peu plus et on est aujourd'hui dans une situation, malgré les déclarations du ministre des Affaires étrangères, qui était, rappelons-le, encore la semaine dernière à Alger, après la conversation téléphonique entre les deux chefs d'État français et algériens. Et on voit que ça n'a pas permis d'aplanir ni les tensions, ni les incompréhensions qui peuvent se faire jour, puisqu'on mélange allègrement le rôle de la justice, celui des relations entre les États qui passent par des diplomates, et on oublie régulièrement de préciser que La séparation des pouvoirs impose une grande liberté d'action et de travail pour les magistrats qui sont concernés et souvent attaqués dans cette situation. Donc oui, nous sommes aujourd'hui dans une phase où, même si je peux rejoindre jusqu'à un certain point le ministre Barrot, où il faudra inévitablement renouer le dialogue. Parce que la densité de la relation entre la France et l'Algérie est telle, notamment de densité humaine, qu'on ne peut pas faire comme s'il s'agissait d'une relation totalement banale. Ce qui peut-être pourrait permettre de trouver une relation qui trouverait au long cours et qui permettrait de se banaliser, c'est effectivement de se parler une bonne fois pour toutes, franchement, mais sur la base des intérêts. Parce que lorsque l'on parle de ces intérêts réciproques, oui, là, il y a une matière et on peut se comprendre beaucoup plus facilement que lorsqu'on est dans la politique, dans la polémique, pardon, politicienne.
Merci Kader Abderrahim pour ces explications, cet éclairage. Kassoum, êtes-vous satisfait des réponses de notre invité?
Oui, très bien.
Eh bien, on vous souhaite une excellente journée à Sikasso, au Mali, Kassoum. Nous sommes désormais au Cameroun, à Yaoundé très précisément, où l'on retrouve Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Namouri Dosso et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, vos questions portent sur la situation des immigrés aux États-Unis. Et pour y répondre, nous avons fait appel à Marie-Laure Maillet, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle. Merci infiniment d'être avec nous. Christophe, on vous écoute.
Oui. Donald Trump a déclaré que 6 000 personnes immigrées étaient décédées pour qu'ils n'accèdent plus à la sécurité sociale. À ce sujet, j'ai deux questions, mon cher Namouri. Est-ce qu'une telle pratique est légale? Quelles seront les conséquences pour les personnes concernées et ont-elles des moyens de recours?
Alors Christophe, Marie-Laure Mallet, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle, vous répond. Marie-Laure Mallet, quelle pourrait être, d'une certaine manière, la légalité de ces pratiques?
Oui, bonjour, merci pour cette question. Alors, c'est quelque chose, c'est une situation vraiment inédite aux États-Unis. Et donc, on ne sait pas exactement, enfin, les experts ne savent pas exactement comment réagir. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ça soulève énormément de questions juridiques. Et notamment, on a eu des déclarations d'anciens responsables donc de la Social Security Administration, donc de l'administration de la sécurité sociale, et notamment l'ancien directeur Martin O'Malley, qui en fait lui a qualifié donc cette action de tout simplement d'illégale en fait, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que donc le but de cette alors la sécurité sociale, l'administration de la sécurité sociale utilise ce fichier des personnes décédées pour éviter les fraudes. Donc le but c'est de éviter que les gens qui seraient décédés ne continuent de percevoir des prestations sociale. Donc là, c'est une situation complètement inédite parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont bien vivantes. Donc il y a plus de 6 000 immigrés bien vivants qui ont été inclus dans ce fichier pour justement invalider leur numéro de sécurité sociale et donc les exclure en fait d'un certain nombre de services.
Mais Marie-Laure Mallet, quelles pourraient être les conséquences en quelques mots, quelles pourraient être les conséquences pour ces personnes, comme vous le dites, qui sont toujours vivantes?
Et tout simplement, elles ont été exclues d'une grande partie des services auxquels elles pouvaient prétendre. Et donc, l'administration a en fait justifié cela en disant qu'elle voulait les encourager à s'auto-expulser, en fait, parce que du coup, ça supprimerait toutes les ce qu'ils appellent les incitations financières à rester aux États-Unis. Donc, maintenant, ils n'ont plus la possibilité, par exemple, sans numéro de sécurité sociale, ils peuvent plus ouvrir de compte bancaire, par exemple, ou alors avoir une carte de crédit ou même louer un appartement, par exemple. Ils sont aussi exclus d'un grand nombre de prestations sociales.
Merci Marie-Laure Mallet pour ces explications. Christophe, belle journée à vous à Yaoundé. Dans quelques instants, sur RFI, le journal Afrique.